Je crois que Antoine Doinel aurait pu être musicien. Mais étant donné qu'il est très peu discipliné, je ne sais pas si je peux imaginer Doinel faisant partie d'un orchestre, par exemple. Il est difficile de l'imaginer subissant des contraintes. Vous voyez, je l'ai montré au début de Baiser Volé, sortant de l'armée, mais sûrement son service militaire, d'ailleurs on le dit, oui, a dû être très agité. Et d'un autre côté, lorsque je lui donne des métiers, je lui donne des métiers où l'on est assez solitaire, comme dans Baiser Volé, il est veilleur de nuit dans un hôtel, dans le dernier film, dans L'amour en fuite, il est correcteur dans une imprimerie, c'est-à-dire qu'on a quand même une certaine indépendance, une certaine autonomie, une certaine... Je ne l'imagine pas dans un métier où... où à la fois on dépend des autres et les autres dépendent de vous, vous voyez, parce que c'est vraiment par définition, Antoine Doinel est quelqu'un qui n'entend pas la sonnerie de son réveil. Vous voyez, la fameuse phrase « j'ai pas entendu sonner mon réveil » ou « mon réveil n'a pas sonné », c'est très bonne pour lui. C'est difficile de donner une ambition à Doinel parce qu'il est un peu asocial et on l'imagine pas avec tendu vers un but dans la vie. Néanmoins, j'en ai fait une sorte de romancier pas vraiment professionnel, puisqu'il a besoin d'un second métier pour vivre, mais quand même aimant les livres, et... mais ça depuis le début, depuis que, je crois, dans les cas sans coup, il aimait les livres déjà. C'est toujours quelqu'un qui aimait les livres, Doinel. Ce qu'on ne sait pas de Doinel, même si on projetait les quatre films à la suite, je ne sais même plus si c'est quatre ou cinq, on ne connaît pas beaucoup de sa vie avant l'âge de 13 ans. Alors peut-être il y a eu quelque part une grand-mère, il y a peut-être eu quelques années assez préservées qui se placeraient entre les années nourrice et le moment où il a commencé à être dans sa famille directe, père et mère. Il y a peut-être eu là une petite zone un peu préservée avec une grand-mère, une tante étudiante au conservatoire, plus tard devenue professeur de violon, possiblement. Et peut-être une grand-mère s'intéressant au piano, et l'intéressant lui au piano, c'est possible, mais ça n'a duré que quelques années. Doinel n'est pas formidablement bien intégré, mais enfin il a quelque chose d'animal en lui qui donne l'impression qu'il rebondit à toutes les situations difficiles. En tout cas, c'était très net dans les premiers films, comme Les 400 coups. C'est plutôt, je dirais presque qu'il est devenu plus inconfortable dans la vie. Il se sent plus inconfortable depuis qu'il est adulte, je suppose. Disons presque depuis Domicile conjugal, parce que dans Baiser volé, il était encore dans des situations de survie, dans des situations un petit peu animales. Et... il a des points positifs, hein. Il n'est pas complètement négatif. Par exemple, je crois qu'il a une espèce de vaillance et de bonne volonté. Il est de bonne foi, même lorsqu'il ment, il a une sorte de bonne foi, oui, et aussi de vaillance. Il n'est pas mou, il n'est pas amorphe. Simplement, il a beaucoup de mal à se tenir dans des états moyens. Il n'est jamais dans des états moyens. Ou bien il est exalté, ou bien il est au bout, au fond de, je sais pas comment on appelle ça, le fond de la bouteille. Il est rarement égal, il est un peu imprévisible à cause de ça. Comme tous les gens qui ont un assez grand naturel, même s'ils sont un peu étranges dans leur comportement, ils ne composent pas, il faut le prendre comme il est. C'est-à-dire on sent qu'il n'est pas tellement différent avec une personne ou avec une autre. Doinel est comme ça, oui. Je crois que si je m'étais exprimé par le roman, mettons, au début de la nouvelle vague, on a brusquement donné des facilités aux jeunes gens pour faire des films, dans un métier qui, depuis quelques décades, était plutôt fermé aux jeunes gens. Bon, si je m'étais exprimé autrement, je pense que j'aurais écrit un roman. Doinel aurait été un personnage de ce roman. Et je ne sais pas si je l'aurais repris, je l'aurais peut-être repris dans d'autres romans qui auraient formé un cycle à ce moment-là. Tous les Doinel sont rétrospectifs, tous les Doinel sont décalés dans le temps. Aucun Doinel n'est au présent. Je le sentais même quand je faisais Baiser volé ou quand je faisais Domicile conjugal. C'est comme si j'avais besoin, quand je filme ce personnage-là, d'un recul. Il y a d'abord le décalage d'âge entre lui et moi. N'oublions pas que quand je l'ai fait tourner dans les 400 coups, il avait 13 ans, j'en avais 26. L'écart est resté le même. Et il y a toujours, donc, lorsque je filme Doinel, je me vois toujours comme 15 ans avant. Et alors là, le bruit en est influencé, le son, la musique, l'ambiance, les détails de la vie en sont influencés aussi. C'est pas, on ne voit jamais dans un Doinel le dernier gadget à la mode. On est toujours reporté 15 ans en arrière, c'est normal. Et alors de même que le 400 coups se reportait à cette période bizarre de la libération, de l'arrivée des Américains et de la fin de l'occupation, etc., Baiser volé était en arrière, se reportait aussi à cette période où effectivement la vie française a été rythmée, je pense, par les chansons de Charles Trenet, les récitals qu'il a donnés au Théâtre de l'Étoile, l'importance de chansons sur la France comme « Douce France » ou cette chanson que j'ai utilisée qui est « Que reste-t-il de nos amours » dans laquelle j'ai d'ailleurs pris ces deux mots « Baiser volé ». Rêve mouvant, baiser volé, que reste-t-il de tout cela? Dites-le moi. Baiser volé, les deux mots sont pris dans le refrain ou le couplet de la chanson.
Ce soir, le vent qui frappe à ma porte me parle des amours mortes devant le feu qui s'éteint. Ce soir, c'est une chanson d'automne dans la maison qui frissonne. Et je pense aux jours lointains. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous? Un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêve mouvant. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché, Et dans un nuage, le cher visage de mon passé. Les mots tendres qu'on murmure, les caresses les plus pures, les serments au fond des bois, les fleurs qu'on retrouve dans un livre, dont le parfum vous enivre, se sont envolées. Pourquoi ? Que reste-t-il de nos amours ? Que reste-t-il de ces beaux jours ? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous ? Un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants. Que reste-t-il de tout cela ? Dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage, le cher visage de mon passé. De mon passé.
Les trésors de France Musique.
Il est certain que on compare souvent un film, parce qu'il raconte une histoire, on compare souvent un film à un livre ou à un roman. Et que la réalité, peut-être on serait davantage dans le vrai en comparant le cinéma à la musique. Parce qu'il y a dans les deux cas, enfin, disons que ce sont des arts du déroulement. Une chose est en train de se dérouler, c'est pareil, la musique avance. Vous voudriez entendre quelque chose, ce n'est pas possible, le concert est en train d'avancer, c'est pareil avec le film avance aussi. Donc ce sont des arts de déroulement, ils sont assez comparables, je trouve. Et lorsque on s'en rend compte, par exemple lorsque un film ou une partie d'un film se passe dans un train, il y a un plaisir particulier parce que le train aussi est une chose en mouvement. Donc on n'a pas à craindre de temps mort, pratiquement, curieusement, dans un film qui se passe dans un train, puisque le paysage derrière les acteurs bouge sans arrêt. Et on a la même chose avec la musique. Quand on a la chance d'avoir une bonne histoire qui se prête à la peinture d'un milieu musical et à l'exécution de morceaux de musique, je trouve qu'on est très harmonieux. C'est probablement l'une des raisons du grand plaisir que les cinéphiles prennent à voir et à revoir, parce que c'est un film que ceux qui l'aiment voient 5-6 fois. Le film Mort à Venise, qui est accompagné par la musique de Mahler tout du long, et qui est pourtant un film très contemplatif, dont on pourrait penser qu'il avance lentement, mais ça n'a pas d'importance qu'il avance lentement, puisque derrière, c'est la musique de Mahler qui avance. Et que cette musique a inspiré le film, elle n'est pas venue après coup. Les notes ont inspiré les images. Alors ici, avec Hitchcock, nous avons une conception du cinéma qui est très souvent musicale, de toute façon. Hitchcock travaille comme un chef d'orchestre, il travaille très physiquement, très sur les nerfs, en sachant qu'il faut accélérer ici, qu'il faut retenir tout le temps l'attention des gens. Et il pense, je crois, dans ses scénarios, et surtout sa mise en scène après, en termes musicaux. Et ici, dans L'homme qui en savait trop, nous avons un moment de cinéma privilégié, disons, un moment absolument idéal, parce que nous avons le fameux suspense hitchcockien qui va travailler à l'intérieur d'une séquence musicale. Le suspense hitchcockien, qu'est-ce que c'est ? C'est très simple, c'est simplement que nous, le spectateur, nous savons quelque chose que les personnages ignorent et qui est la cause d'une grande peur, d'une grande appréhension. C'est ça le suspense. Donc nous savons qu'il y a un concert, il y a des spectateurs, parmi ces spectateurs un ambassadeur et un tueur qui va attendre que l'unique coup de cymbale de la partition pour tirer sur l'ambassadeur et le tuer. Mais nous savons aussi qu'une jeune femme qui est dans la salle est au courant de ce projet de meurtre et voudrait à toute force prévenir l'ambassadeur avant qu'il ne soit trop tard. Donc évidemment, nous avons le déroulement de la symphonie qui est complètement harmonieux, des plans de plus en plus rapprochés sur les musiciens, des plans sur les spectateurs qui ne se doutent de rien, sur l'ambassadeur qui ne se doute de rien, sur le tueur qui prépare méthodiquement son travail en abritant un peu son revolver derrière un rideau de velours, et sur cette femme qui ne sait pas par quel moyen prévenir l'ambassadeur. Donc nous avons là un crescendo qui est prodigieux et qui a quelque chose d'autant plus inéluctable que la musique est inéluctable. Elle est écrite, il y a les partitions qui sont là, rien ne change. Ce n'est pas comme dans la vie où une phrase va peut-être être dite qui va changer quelque chose. Et alors nous avons la progression de cette musique, puis nous avons ce fameux coup de cymbale qui arrive. Et cette femme qui a une réaction heureuse à ce moment-là, elle pousse un cri. Et parce qu'elle a poussé un cri, l'ambassadeur s'est penché pour regarder d'où venait ce cri. Et parce qu'il s'est penché, il n'a pas reçu le coup de feu, il n'a pas reçu la balle du tueur. Donc ce cri qui n'était pas sur la partition, la seule note qui n'était pas sur la partition, a sauvé la vie de cet ambassadeur. Voilà. Donc là, nous avons quelque chose de très harmonieux, évidemment. Une splendide scène dont on peut dire que plus elle est longue, plus elle est forte. Et je crois que ça en donne à cœur joie parce qu'il a cette autorité pour s'installer dans une scène quand il sait que tous les éléments sont positifs. Cette musique de L'homme qui en savait trop, que j'ai toujours désiré d'ailleurs avoir en disque, que je n'ai pas, mais je crois était une musique préexistante, une cantate anglaise, certainement britannique du début du siècle. Et enfin, je crois, oui, appartenant à cette première moitié du XXe siècle, et qu'on entendait déjà dans la première version, parce qu'Hitchcock a fait deux fois L'homme qui en savait trop. Il l'a fait une première fois en Angleterre en 1935 ou 36. C'était un énorme succès, mais il a eu envie, 20 ans plus tard, de le refaire à Hollywood avec Doris Day. Et cette fois-ci, la cantate a été réorchestrée magnifiquement par Bernard Herrmann, qui d'ailleurs en est le chef d'orchestre même à l'écran. Dans le film de fiction, donc, de L'homme qui en savait trop, deuxième version, nous voyons Bernard Herrmann diriger l'orchestre. Et alors à New York, par exemple, où les cinéphiles très avertis, lorsqu'on projette le film, applaudissent la première image où ils voient Bernard Herrmann diriger l'orchestre. Et Bernard Herrmann a été, comme Jaubert en France, un des musiciens qui a eu de l'intérêt pour le cinéma, qui a eu de la passion pour le cinéma, qui a regardé le cinéma d'une façon non condescendante et en pensant que les deux arts étaient faits pour bien marcher ensemble. Il a commencé à travailler pour le spectacle avec Orson Welles dans la troupe du Mercury Theatre, la troupe qu'Orson Welles avait créée à New York en 1937-38. Puis dans ce fameux programme de radio aussi, où Orson Welles chaque semaine adaptait des romans, comme Rebecca, Janer, et cette fameuse émission de la Guerre des Mondes aussi. Et là, Herman était le musicien, donc qui chaque semaine mettait en musique ces émissions. Il a participé au plus grand film de l'histoire sonore du cinéma, puisque c'est Citizen Kane, je crois que tout le monde est unanime là-dessus. Puis d'autres films d'Orson Welles, comme Les Ambersons. Et ensuite, il a travaillé pour Hitchcock pendant 7-8 ans, sur 5 ou 6 films différents, tels que Trouble with Harry, surtout Psycho, la partition de Psycho est très célèbre, et celle de Marnie aussi. Et il a été pratiquement le meilleur musicien de film en Amérique, je crois. Disons depuis 1940, jusqu'à la fin des années 60. Il a eu une éclipse à un certain moment où le cinéma était en crise, Hollywood était en crise, et on avait une idée assez méprisante sur la musique de film. Brusquement, on voulait des musiques de film sur lesquelles les jeunes gens puissent danser dans les discothèques. Et pendant un certain temps, donc, le côté symphonique et très classique d'Herman, qui est au fond influencé par Wagner et par Stravinsky, Herman a été mis de côté. Et puis il est revenu grâce à l'intérêt que lui portaient des jeunes gens, de jeunes cinéastes américains. Et par exemple, il est revenu en grand triomphateur avec la musique de Taxi Driver. Et c'est au lendemain d'avoir enregistré, dirigé la musique de Taxi Driver que Herman est mort. J'étais à Los Angeles à ce moment-là. On m'a proposé d'aller non pas à son enterrement, une petite cérémonie qui a eu lieu au cimetière d'Hollywood. Et là, il y a eu une cérémonie qui était très bien, très très bien, où différentes personnes ayant connu Bernard Herrmann à différents moments de sa vie ont fait un petit speech. Et le seul point commun de tous ces speeches, c'est que chaque fois on parlait du mauvais caractère de Bernard Herrmann, ce qui rendait la cérémonie très gaie. Mais c'était plus ou moins direct, c'est-à-dire quelquefois disait évidemment Bernie était un homme qui ne faisait pas de concessions. Une autre fois, un autre disait évidemment Bernie avait ses idées, il n'aimait pas qu'on l'en fasse dévier. Il y avait chaque fois une phrase qui faisait rire l'assistance et qui faisait allusion au fait que c'était un homme avec un caractère fort, pour ne pas dire un mauvais caractère. Et d'ailleurs, là, quand il avait enregistré la musique de Taxi Driver, de Scorsese, les musiciens avaient été très étonnés parce que pendant 2 jours, ils ne s'étaient pas mis en colère. Ils s'étaient dit, tiens, il y a quelque chose qui ne va pas avec Bernie, il ne se met pas en colère. Et effectivement, il a fini de diriger les partitions, il a remercié tout le monde et il est mort dans la nuit suivante à l'hôtel Sheraton Universal. J'ai eu beaucoup de plaisir à le connaître parce qu'il était cinéphile, il aimait réellement le cinéma. J'ai fait appel à lui pour au moment où j'ai tourné à Londres Fahrenheit 451 et vraiment j'ai été très heureux de ce qu'il a fait pour le film. Je lui avais dit il faut pas faire comme si le film était complètement sérieux, il faut faire comme si c'était un rêve d'enfant un peu, parce que cette caserne, ces pompiers, c'est comme des petits soldats, c'est comme un enfant qui joue avec une petite caserne, des petits soldats de plomb, donc il faut toujours qu'il y ait un certain recul par rapport à ce qu'il faisait pour Hitchcock, où c'était une musique 100% sérieuse. Alors il a pensé, je suis sûr, à ce moment-là, en s'aidant de Stravinsky, de Petrushka, je ne sais pas, je suppose, enfin, il a donné cette sonorité un peu enfantine que je voulais, et en même temps, beaucoup de lyrisme dans toutes les scènes d'incendie de livres, puisque Fahrenheit était une histoire qui avait à voir avec une société où les livres sont interdits. We'll be right back. Puis nous avons retravaillé ensemble sur La mariée était en noir, où il a eu de très bonnes idées, comme de donner une couleur musicale différente à chacun des hommes que Jeanne Moreau va rencontrer et tuer. Puis en rassemblant tous ces thèmes à certains moments, il pouvait même avoir des idées sur le montage, c'est-à-dire le moment où on lui montrait le film, c'était un moment où le film était toujours un peu informe, et il pouvait dire « moi je trouve que ce plan est inutile, ce plan enlève du mystère, vous devriez supprimer ce plan-là ». Il pouvait, ou au contraire, il pouvait dire « vous devriez prolonger ce plan-là ». Sa sensibilité musicale, en fait, rejaillissait sur le montage même du film. Et il était un musicien qui aidait beaucoup les films aussi. Il sentait, il disait « cette scène-là a besoin de mystère, on met du mystère, celle-ci a besoin, nous avons un épisode qui est fini, maintenant il faut faire repartir, et il y avait une certaine orchestration à faire pour que la musique reparte ». C'était vraiment un de ceux qui connaissait le mieux les lois du cinéma. Maurice Jaubert a été un musicien extraordinaire aussi, donc dans une période antérieure à Bernard Herrmann. Maurice Jaubert est venu au début du cinéma parlant. Il a été le musicien des tout premiers films de René Clair et il a été le musicien des deux magnifiques films de Vigo, Zéro de conduite et La Talente. Et je crois que c'est sa partition de La Talente que tout le monde a préféré. Bien qu'il y ait des morceaux plus célèbres de lui, comme la chanson, je crois, de 14 juillet, surtout la valse de Carnet de bal, et quelques airs de Quai des Brumes aussi. Jaubert était parti dans la vie pour être avocat, il était avocat d'ailleurs à Nice, et puis il a été attiré par le spectacle, et donc il s'est dirigé vers la musique. Et lui aussi a regardé le cinéma sans condescendance, avec amour, il a passionnément aimé le cinéma. Malheureusement, il est mort très jeune, en pleine guerre de 40. Et lorsque, il y a quelques années, j'ai voulu faire l'histoire d'Adèle H avec Isabelle Adjani, J'ai eu envie de changer, j'ai eu envie de ne pas attendre le dernier moment pour découvrir une musique qui éventuellement me satisfait sur tel point mais me déçoit sur tel autre. J'ai eu envie de connaître la musique avant de faire le film, disons. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais puisque quelquefois on prend pour musiquer un film de la musique existante déjà, de la musique classique, de la musique, pourquoi ne pas prendre une musique existante ? Et j'ai fait venir de Belgique, où les choses étaient mieux organisées, je parle de la Cinémathèque belge, j'ai fait venir des bandes de différents documentaires pour lesquels Jaubert avait fait la musique. J'ai écouté beaucoup de musique de Jaubert. Et à partir de là, avec l'aide de François Porcil, qui avait écrit un livre sur Jaubert, que j'aimais beaucoup, nous avons choisi un certain nombre de morceaux qui accompagneraient Adélache. Nous les avons fait enregistrer, ils ont été réorchestrés par Patrice Mestral, enregistrés avant tournage. Et là, j'ai eu sur Adélache la chance assez unique d'avoir la musique prête sur des disques souples. Et lorsqu'Isabella Joani jouait, la plupart du temps dans le film, elle était toute seule. Eh bien, nous lui passions les disques souples et on pouvait régler ses mouvements à l'intérieur de sa chambre. On pouvait, même elle, ça l'aidait à arriver à une certaine émotion sur la musique de Jaubert, c'est-à-dire qu'on fonctionnait presque comme les comédies musicales, presque sur le principe du playback. Et j'étais très heureux de ce système que j'ai repris pour la Chambre verte. Voilà donc l'histoire de ma collaboration avec Jaubert. C'était de la musique de cinéma, c'était de la musique tout court, de très belle musique.
Thank you. La bande originale du film « L'histoire d'Adèle H », composée par Maurice Jaubert, un film réalisé par François Truffaut en 1975, pour conclure cet entretien avec le cinéaste. Un entretien recueilli par Alain Lacombe pour France Musique en 1979. Tout le programme et le podcast de cette archive sont à retrouver sur le site radiofrance.fr et via l'appli Radio France. Merci aux documentalistes de l'INA pour leur collaboration, ainsi qu'à Béatrice Trichet, notre réalisatrice, qui a entièrement remis en forme cet entretien avec François Truffaut.
C'était Les Trésors de France Musique par Françoise Monteil. Bienvenue dans les nuits de France Musique. Tout de suite, Les Essentiels de François-Xavier Chemchak.
Bonjour et bienvenue, voici Les Essentiels de David Oistrakh, une série de 5 émissions que je vous propose un demi-siècle après la mort de l'immense violoniste, le 24 octobre 1974, à l'âge de 66 ans. J'avais eu l'occasion de lui rendre hommage l'été dernier dans une saga de 10h30, cette fois 1h30 d'émission intitulée David Oistrakh, le violon et l'étoile rouge, que vous pouvez retrouver sur notre site et notre appli. À l'occasion de ce cinquantenaire, Warner Classics vient de sortir un coffret de presque 60 disques avec des enregistrements bien connus d'Oistrakh remasterisé, mais le grand trésor de ce coffret, ce sont des archives totalement inédites, recueillies depuis des décennies par Bruno Mont-Saint-Jean, auteur d'un documentaire audiovisuel David Oistrakh, artiste du peuple, présent dans ce coffret. Et aujourd'hui, nous allons écouter non seulement des enregistrements totalement inédits d'Oistrakh, mais c'est également Oistrakh dans des œuvres qui étaient totalement absentes de sa discographie, des œuvres dont certaines sont immortelles.
Je n'avais jamais entendu David Oistrakh dans les 4 saisons de Vivaldi. Eh bien, cette archive de 1954 nous permettait d'entendre un extrait de l'hiver avec le pianiste Vladimir Yampolsky. C'est une partie de cet immense trésor que l'on découvre dans ce coffret. Donc, 5 émissions sur Oistrakh. Mercredi, ce sera Oistrakh et la France, le répertoire français, les orchestres français, en particulier l'Orchestre National, ainsi que les récitals d'Oistrakh à Paris. Jeudi et vendredi, je mettrai en avant un aspect
méconnue du talent et même du génie de David Oistrakh, c'est la direction d'orchestre. Et pour ces deux premières émissions, eh bien, nous allons nous plonger donc dans ses archives Mont-Saint-Jean. Bruno Mont-Saint-Jean, qui, je le disais, a recueilli depuis des décennies ses archives en se rendant dans les quatre coins de l'ex-URSS. Lui qui avait rencontré David Oistrakh à Prades dans les années 60 au festival Pablo Casals, en passant même une semaine avec le violoniste. Il l'avait plusieurs fois entendu en concert et lui a consacré, je le disais, un très beau documentaire, David Oistrakh, artiste du peuple. Il y a des archives audiovisuel, des extraits de films jamais vus, et puis il y a surtout eh bien, plus de 25 disques. Ce ne sont pas une ou deux archives par-ci par-là, ce sont 25 disques qui nous permettent d'entendre des œuvres jouées par Oistrakh, comme par exemple cette Passacaille de Handel, qui nous permet de retrouver également le pianiste Vladimir Yampolsky.
Thank you.
C'est un certain César Thompson que l'on doit cette adaptation de la Passacaille en sol mineur de Handel pour violon et piano. Le 26 novembre 1950, David Oistrakh interprétait cette partition avec le pianiste Vladimir Yampolsky. Ses archives, elles remontent à 1932, la toute première gravure de David Oistrakh sur des disques de cire à l'époque. Et puis, les années 40, les années 50 sont bien représentées dans cette discographie qui représente des enregistrements soviétiques essentiellement pour David Oistrakh, accompagné par différents interprètes et en particulier, puisque c'est l'époque, par ce Vladimir Yampolsky. Alors j'ai volontairement commencé cette émission avec des tubes du répertoire, les quatre saisons du Vivaldi, cette Passacaille de Handel. En voici un autre et pas des moindres, puisque c'est le 24e et dernier caprice de Paganini pour violon seul, normalement, mais ici c'est une version Leopold Auer, le très grand violoniste et pédagogue de Saint-Pétersbourg, qui propose de rajouter, pourquoi pas, un piano. Toujours avec Vladimir Yampolsky, voici le roi David dans le caprice 24 de Paganini.
Thank you.
France Musique, les essentiels. François-Xavier Chemchak.
Works, New to the discography. Voilà mon critère de sélection pour cette première émission David Oistrakh, c'est cette mention que l'on lit à plusieurs reprises sur les disques des archives de Bruno Mont-Saint-Jean, paru chez Warner. Œuvre nouvelle dans la discographie de David Oistrakh, on ne l'avait donc jamais entendu dans cette polonaise brillante numéro 1, avec au piano Vladimir Limpolski ici. Lui et David Oistrakh qui avait remporté le deuxième prix du concours Wieniawski en 1935. Le premier prix, c'était pour Ginette Neveu. N'ayant eu David Oistrakh que la médaille d'argent, il aura sa revanche 2 ans plus tard en remportant à 29 ans le concours Isaïe.